Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Depuis des années, Canal Académie entretient des relations vraiment privilégiées avec l'Alliance française et c'est en passe de devenir une tradition. Le colloque international de l'Alliance française qui se tient tous les ans en janvier à Paris nous offre évidemment une bonne occasion d'aller à la rencontre des différents représentants de ce grand réseau. Et aujourd'hui, nous accueillons avec un grand plaisir le délégué général des Alliances françaises aux États-Unis, Monsieur Jean-Pierre Chénin. Jean-Pierre Chénin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'un réseau d'une centaine d'Alliances françaises aux États-Unis et votre mission consiste donc principalement à encourager les échanges culturels et artistiques entre les États-Unis et le monde francophone et bien sûr à promouvoir la langue française. Pourriez-vous nous en donner un éclairage un peu plus concret, Jean-Pierre Chénin ?
Le réseau des Alliances françaises aux États-Unis est d'abord un vieux réseau parce que une des premières alliances françaises créées aux États-Unis, c'est de mémoire San Francisco en 1894. Et au début du siècle, en 1902, il existe à peu près une trentaine de chapitres, ce qu'on appelle de chapitres d'alliance, qui se regroupent en une fédération. Et c'est en 1902 que naît la Fédération des Alliances françaises des États-Unis, qui existe toujours et qui joue un rôle important auprès des 114 alliances des États-Unis.
Si je peux vous interrompre, nous avons eu le plaisir de recevoir la présidente de la Fédération des États-Unis
Mimi
sur notre
Grégory,
antenne.
Avec laquelle je travaille régulièrement. Nous avons la chance d'habiter dans le même État, parce que Mimi Grégory, outre ses fonctions importantes de présidente de la Fédération, est aussi présidente d'une petite alliance, l'alliance de Bonita Springs. Ce n'est pas la seule alliance qu'elle a présidée aux États-Unis, parce qu'elle a joué un rôle important à l'Alliance française de Chicago également. Et donc, à peu près 150 km nous séparent entre Miami, où est installée la délégation générale, et son alliance de Bonita Springs. Donc, ce qui fait qu'on se voit très souvent et qu'on travaille très bien ensemble.
Et vous êtes animés tous les deux du même dynamisme.
Du même dynamisme, de la même volonté de faire évoluer des alliances qui sont très diverses. Le paysage des alliances aux États-Unis, c'est en tout 114 alliances. Sur ces 114 alliances, il y en a 70 qui sont des alliances enseignantes, avec des forces et des faiblesses qui sont différentes. En réalité, vous avez une quarantaine d'alliances qui sont de grosses alliances enseignantes avec un corps professoral qui ont adopté d'ailleurs un programme qui a été mis en place par la délégation générale il y a quelques années, qui est le programme FRAME, qui est pour une alliance d'adhérer finalement à un certain nombre de principes pédagogiques qui s'appuient sur le cadre européen des langues, qui définit l'apprentissage des langues en termes de compétences. Puis vous avez une quarantaine d'alliances qui sont des alliances moyennes, voire petites, mais qui ont une petite activité d'enseignement, essentiellement sous forme de cours de conversation.
Et de rencontres, je suppose.
Et de rencontres
et activités culturelles.
Et puis vous avez donc le reste des alliances qui sont plutôt des clubs francophones et francophiles qui n'ont pas une activité d'enseignement, mais qui jouent un rôle important, je dirais, dans le tissu social d'un certain nombre de villes et d'États, parce qu'elles regroupent autour d'elles des francophiles qui aiment la France, qui y vont souvent et qui aiment échanger sur des sujets d'actualité, sur des sujets d'histoire. C'est une activité sociale relativement importante.
Et au point de vue géographique, comment ça se distribue sur ce vaste continent ?
Là où il y a le plus d'alliances, c'est sur la côte. Alors que je ne me trompe pas, c'est sur la côte Est, donc qui va de la Floride jusqu'en haut, l'État de New York.
La Nouvelle-Angleterre, j'imagine.
La Nouvelle-Angleterre, c'est là où il y a le plus d'alliances et de petites alliances. Et puis sur la côte Ouest. Alors au centre des États-Unis, c'est les Grandes Plaines. Il n'y a pas beaucoup d'alliances. Mais
et
il
au
y a
sud,
des...
en Louisiane ?
Au sud, alors en Louisiane, il y en a un certain nombre. Il doit y en avoir 5, si j'ai bonne mémoire. En Floride, il y en a 9. Puisque actuellement, on estime, compte tenu des recensements qu'on a pu faire, que le premier État francophone des États-Unis, c'est la Floride, qui est passé devant la Louisiane, qui a perdu pas mal de son français.
À cause de cette catastrophe,
pas
Katrina.
Simplement à cause de la catastrophe, mais sans doute par le biais de migrations successives, par le biais tout le français qui était lié aux communautés acadiennes qui a disparu. Voilà. Et c'est vrai que la Floride, qui accueille encore une, entre guillemets, une immigration française, francophone importante, en particulier les communautés haïtiennes sont très importantes en Floride, comme dans l'État de New York. La communauté française est relativement importante. On estime à peu près à entre 50 et 60 000 personnes le nombre de Français
oui,
en Floride.
Oui, alors les expatriés, c'est un petit nombre, c'est tout à fait individuel.
Tout à fait, oui.
Enfin, voilà. Il y en a quand même pas mal d'expatriés.
Il y en a pas mal. Oui, oui.
Comment se passe la vie quotidienne d'un délégué général de 114 alliances françaises? Alors, vous êtes tout le temps dans l'avion?
Alors,
vous avez encore le temps de manger et de boire?
Non, d'abord, je ne suis pas tout seul, puisque l'équipe de la délégation générale aux États-Unis est composée de 3 personnes. Donc, le délégué général... Alors, je suis aussi, en même temps, directeur de l'Alliance française de Miami. Et j'ai 2 adjointes, qui sont déléguées générales adjointes. Une pour tout ce qui est toutes les questions éducatives et pédagogiques, et donc qui coordonne l'ensemble du développement des programmes que l'on cherche à mettre en place avec les alliances, en particulier le programme FRAME, la professionnalisation des équipes, la formation des professeurs, le développement des cours de langue pour enfants, parce que ça, c'est un développement qui est relativement important pour nous. Et il y a également une déléguée générale adjointe pour toutes les activités culturelles, c'est-à-dire l'organisation des activités des tournées artistiques et surtout l'organisation des tournées de conférenciers. Parce qu'il y a une grande tradition aux États-Unis qui existe depuis 1902, c'est les tournées de conférenciers. Je suis en train, et je vais la sortir bientôt, je vous en adresserai un compte-rendu. À mon avis, ça doit être très très intéressant. Depuis 1902, alors c'était d'abord organisé par la Fédération, c'est maintenant organisé par la délégation. Fédération est une association
américaine. Oui, vous travaillez
américaine.
Main dans la main.
On travaille ensemble. Nous sommes plutôt représentants de la Fondation et là, en termes d'assistance technique pour tout ce qui est pédagogique, éducatif et culturel. Alors, je reviens sur ces conférences organisées depuis 1902. Les grands noms de l'Académie française, de l'Institut français, de l'Institut des sciences, de l'Académie des sciences ont été conférenciers de l'Alliance française aux États-Unis.
De l'Alliance française, c'est-à-dire de la délégation?
À l'époque, c'était l'Alliance française, mais dans le programme de la Fédération, c'était les conférenciers officiels de l'Alliance française.
Donc, et vous donc, recevez tous nos académiciens?
Ben, on en a reçu pas mal, on souhaite en recevoir encore. On essaye de nouer des partenariats avec un certain nombre d'institutions ici. Il faut voir qu'à l'époque, par exemple, Jean Giraudoux, a été conférencier en 1924, si je me souviens, conférencier officiel de l'Alliance française aux États-Unis. Et il a donné, alors, on ne donnait pas 4-5 conférences, hein, on restait entre 1 mois et 2 mois aux États-Unis, compte tenu des distances, des moyens de déplacement, et les conférenciers donnaient entre 15, 20, voire 30 conférences durant leur séjour.
Oui.
Beaucoup de directeurs de musées sont venus. Un autre conférencier en 1954, François Mitterrand, a été conférencier de l'Alliance française.
Si on peut savoir.
Les sujets de mémoire, c'était des sujets qui étaient liés à la politique française. En 54, c'était les questions sur les colonies, si j'ai bonne mémoire. C'était ce genre de sujet. Mais chaque conférencier propose 2, 3, 4 sujets différents et les alliances qui s'inscrivent dans ce programme de conférences choisissent. Par exemple, pour cette année, nous avons Jean-Louis Calvé qui vient pour une série de conférences. Nous avons invité, par exemple, Michel Onfray qui va venir. Qui va venir encore? Pascal Bruckner va sans doute revenir. Bon, voilà, des grands noms de la littérature, de la sociologie,
de la scène littéraire et
intellectuelle, philosophique française. Parce que dans les alliances aux États-Unis, il y a une vraie tradition du débat d'idées. C'est très important pour les membres des alliances, d'une part, de pouvoir rester en contact avec cette France qu'ils ont visitée ou dont ils sont issus, et qui sont très attirés par le débat d'idées, par l'échange de points de vue sur... il existe une réelle culture américaine, il existe une réelle culture française, et c'est dans ces...
grande curiosité d'esprit.
Une très, très grande curiosité, tout à fait.
Et donc une vraie démocratie comme on en rêve, c'est-à-dire pour l'élite, j'imagine, quand même.
Oui, une élite intellectuelle, mais Pas forcément. Je veux dire, les Américains sont très curieux. Dès lors qu'ils ont touché à une langue qui n'est pas la leur ou à une culture qui n'est pas la leur, ils restent, je crois, très curieux de ce qui se passe à l'extérieur de chez eux.
Donc il y a vraiment un débat très libre, très ouvert entre donc, le conférencier et
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a plutôt des thèmes de prédilection dans les alliances. C'est vrai que quand une alliance accueille un conférencier, elle préférera accueillir un conférencier sur... par exemple, l'art de vivre en France. L'art de vivre, qu'est-ce que c'est ? C'est, par exemple, nous avons accueilli dernièrement, qui a fait une très belle tournée aux États-Unis, Patricia de Nicolaï. Patricia de Nicolaï est la présidente de l'Osmothèque de Versailles, parfumeuse elle-même, enfin designer de parfums, et qui a donné une série de conférences sur le métier de parfumeur, sur l'histoire du parfum. Et ça a attiré beaucoup, beaucoup de monde. Voilà.
Oui. C'est un
public féminin, mais un public de connaisseurs. Un public de connaisseurs très attentif. Alors, elle est venue avec des échantillons d'essence, donc permettant de découvrir ou de reconnaître ou de retrouver des senteurs qui existent dans les parfums français.
Oui, à ce sujet, c'est drôle, mais j'ai entendu, lorsque nous avons reçu donc Mimi Grégory, qui me racontait à propos des parfums. Tout à fait, un woman's talk un peu dans les coulisses, que certains parfums ne sont pas du tout les mêmes en France ou aux États-Unis. Et on leur a expliqué, leur, parce qu'elle était accompagnée d'une amie, je vous raconte tout. Donc on leur a expliqué que l'huile qu'on utilise pour la création du parfum n'était pas la même aux États-Unis, en France. Alors c'est qui est complètement ignorée.
Voilà, une tradition dans les conférences, et nous cherchons, nous encourageons les intellectuels français, les artistes, les historiens, les psychologues, à venir aux États-Unis parce qu'il y a de vraies opportunités, de vrais débats sur le fond et sur des thèmes alors qui touchent à la fois la vie de tous les jours, le quotidien, des faits de société, mais aussi la politique, mais aussi les aspects scientifiques. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts.
Et au point de vue politique, il y a de grands débats passionnés ou ça garde un côté un peu salon ?
Disons, les débats... C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. On est toujours sur des grands thèmes qui sont, par exemple, religion et politique, qui sont les droits de l'homme, qui sont les relations internationales.
Les questions sur la planète,
voilà,
j'imagine,
les questions l'écologie. De l'environnement, tout ce qui est le développement durable, etc.
Oui, qui sont les mêmes qu'en France.
Qui sont les mêmes qu'en France.
Mais ici, alors, ça déclenche toujours des passions.
Voilà, qu'on n'aborde peut-être pas totalement de la même manière aux États-Unis, mais qui offre des opportunités d'échange et de débat.
Oui, ça doit être très intéressant pour un rapprochement des mentalités.
Bah, par exemple, Paul Claudel, qui a été ambassadeur de France aux États-Unis, a donné aussi des conférences dans le cadre de l'Alliance française.
Est-ce qu'actuellement, vous avez reçu certains académiciens ? Est-ce qu'on peut savoir ?
Pas ces derniers temps, mais nous nous employons à essayer d'en convaincre un certain nombre de venir.
On va le faire savoir à travers notre belle radio.
Par exemple, lors de la fondation Alliance française qui s'est déroulée ces derniers jours, on a pu entendre Eric Orsenna. Moi, je serais très, très heureux de l'accueillir aux États-Unis.
Je ne sais pas s'il est déjà au courant, mais sinon, on en profite pour le lui transmettre. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Canal Académie a déjà réalisé plusieurs émissions sur les alliances françaises aux États-Unis. Néanmoins, peut-on peut-être rapidement récapituler la structure du réseau qui est un peu plus compliquée que dans d'autres pays. Vous-même, outre votre fonction de délégué général, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes directeur d'une alliance française de Miami. Donc tout ça est un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette structure
Ce réseau, comme dans tous les pays, s'appuie sur des associations de droit local. Toutes les alliances françaises sont des associations de droit local, comme il existe en France des associations loi 1901. Aux États-Unis, ça s'appelle des non-for-profit organizations. Donc, qui sont des associations de droit local, qui disposent de membres, d'un conseil d'administration qui est élu avec un président, un trésorier. Toutes les alliances sont sur ce même...
Dans le monde entier.
Dans le monde entier. Et donc, ces alliances qui se sont données pour objectif de diffuser la langue française, de l'enseigner et d'avoir une activité culturelle de diffusion de la culture et des arts français en fonction de leur dimension, en fonction de leurs possibilités, ont obtenu la reconnaissance du label Alliance française par la Fondation Alliance française par la Fondation qui est ici à Paris.
Oui.
Hein, parce qu'il n'y a que la Fondation qui est habilitée à donner le label Alliance française à une association dans le monde. Voilà. Alors, aux États-Unis, il y a ces associations qui se sont regroupées depuis 1902 au sein d'une fédération, la Fédération des Alliances françaises des États-Unis. Alors, bon, cette fédération a un rôle plutôt, je dirais, de représentation politique auprès des autorités américaines. Elle essaye également de développer un certain nombre de soutiens sous forme de subventions à certaines alliances pour les aider à progresser, sous forme de prix, de bourses pour des étudiants. Elle débute, mais c'est encore assez faible, une activité de ce qu'on appelle de fundraising, pour lever des fonds pour ce réseau d'alliances françaises. Voilà. Et ensuite, vous avez à côté de ça la délégation, donc la délégation de l'Alliance française. Et nous, nous représentons donc la fondation auprès de toutes ces alliances et nous leur apportons une assistance technique dans le domaine pédagogique, dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel. C'est le soutien de la Fondation Alliance française, mais c'est aussi le soutien, à travers notre mise à disposition, le soutien du ministère des Affaires étrangères auprès de ce réseau.
Vous, par exemple, vous êtes donc envoyé par les Affaires étrangères.
Par les Affaires étrangères, tout à fait. En tant que directeur de l'Alliance française de Miami.
Alors que sur place, vous avez un personnel plutôt local, en général.
Oui, sur place, oui, puisque l'ensemble des alliances françaises aux États-Unis s'autofinancent, ne reçoivent pas de subventions.
S'autofinancent, c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, s'autofinancent
par la vente
de cours de français.
Voilà, par la vente des cours de français.
Par les cotisations des membres. La vente de cours de français, certaines alliances comme l'Alliance de New York, l'Alliance de Washington ou l'Alliance de Chicago mènent des opérations de fundraising pour lever des fonds. Parce que ça, c'est une tradition aux
États-Unis.
Avec
le traditionnel dîner.
Le dîner de gala, voilà, c'est quelque chose. Il y a des alliances.
Ça nous manque en France.
Voilà, il y a des alliances qui ont cette tradition, il y en a d'autres qui l'ont moins. Mais c'est une activité importante. En tous les cas, moi, je note qu'aux États-Unis, une association qui ne mène pas cette activité de fundraising, à partir de laquelle nombre d'actions culturelles sont possibles, cette association n'est pas prise au sérieux. Il faut faire du fundraising. Ça fait partie de la culture que de faire appel à la générosité des uns et des autres.
Mais on voit bien ce que ça donne dans les musées. C'est extraordinaire. S'il
n'y
avait pas les fondations, il n'y
aurait
pas de musée.
Il n'y aurait pas de musée.
Avec toutes ces merveilleuses collections.
Voilà. Donc, c'est des alliances françaises, 114, une fédération qui les fédère, et une délégation qui les aide à progresser, je dirais, et à se professionnaliser pour offrir le meilleur enseignement du français.
Donc, si je comprends bien, c'est la fédération qui est plus ancienne que la délégation.
Ah oui, oui, oui. La fédération date de 1902. La délégation aux États-Unis a été créée en 1974 ou 1975. Elle a d'ailleurs été créée par Jean Arzic, qui a été pendant de nombreuses années. Ensuite, il a été conseiller culturel à New York, il a été délégué général, attaché culturel à New York, et il a été secrétaire général de l'Alliance française de Paris pendant de nombreuses années.
Et puis après, il y a encore les présidents et les directeurs des
tout à fait. Et sur ces 114 alliances, quasiment 95% de ces alliances s'autofinancent, recrutent leurs propres directeurs, ce sont des recrutés locaux, ce ne sont pas des directeurs mis à disposition des affaires étrangères. Il n'y a que 5 alliances aux États-Unis qui ont un directeur français, détaché par la France. Hein. Non, non, c'est un réseau qui s'autogère et qui s'autofinance complètement.
C'est toujours avec un énorme enthousiasme qu'on écoute ces témoignages pour tout ce qui concerne l'Alliance française. C'est vraiment un esprit magnifique.
Surtout, ça repose sur des personnes qui y croient, qui ont cette volonté de faire vivre des échanges linguistiques, des échanges culturels, qui ont cette volonté de travailler dans cette diversité culturelle. Les présidents et les présidentes d'alliances aux États-Unis sont des gens remarquables, qui ont leur caractère, qui avancent, souvent manifestent un esprit d'indépendance par rapport à la France.
C'est ça qui est très enrichissant
aussi.
Par
rapport à l'Alliance française, mais qui néanmoins restent dans ce réseau parce qu'ils y croient. Parce que fondamentalement, ils croient à l'échange, ils croient à la rencontre. Et c'est ça qui fait vivre ce réseau.
On sent une réelle passion, une vraie passion.
Tout à fait.
Et on sent, moi, de l'extérieur, pas vraiment un esprit hiérarchique comme dans les administrations.
Non.
Tout le monde est dans la même famille.
C'est vrai,
il y a un esprit, comme a dit Jean-Claude Jacques un jour.
Voilà, dans les.
Alliance Française.
Il y a un esprit Alliance Française. Alors, dans les échanges qu'on a eus à l'occasion du dernier colloque, c'est vrai que souvent, on assimile ces Alliances Françaises à des familles, à des grandes familles. Alors, on parle d'organisation familiale, de gestion familiale. C'est de moins en moins vrai parce que, je veux dire, pour survivre et pour se développer, les alliances ont besoin de se professionnaliser, ont besoin d'offrir des offres de cours qui tiennent la route et qui soient professionnelles par rapport... Parce que le marché des langues dans beaucoup de pays, en particulier aux États-Unis, est un marché très concurrentiel. Donc il y a des boîtes de langues qui se montent. L'Alliance française a ce plus aux États-Unis... qu'elle reste un milieu où on ne sépare pas l'activité d'enseignement de la langue des activités culturelles. C'est-à-dire enseigner une langue, ça s'appuie aussi sur un contenu culturel et sociétal important. Et les alliances françaises savent faire ça.
Aimez-vous Mozart ?
J'adore.
Je sais. J'ai consulté mes livres.
C'est gentil.
Alors je vous suggère quelques... mouvement de Mozart avant de continuer notre conversation. Mozart. Vous venez d'entendre un extrait du premier mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 25 avec Mitsuko Uchida au piano et Riccardo Muti dirigeant l'Orchestre philharmonique de Vienne. Et les connaisseurs auront peut-être reconnu quelques accords que l'on retrouve dans la Marseillaise. Nous sommes toujours au studio avec Jean-François Chénin, délégué général des Alliances françaises aux États-Unis. Et c'est une occasion rare de vous interroger sur les multiples activités de votre alliance. On en a déjà vu beaucoup dans la première partie de notre émission. Mais vous avez évoqué tout à l'heure certaines activités comme Frames ou Smart Steps to French pour les enfants ou Merlin. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus en détail en quoi ça consiste ?
Oui, ce sont des dispositifs éducatifs et pédagogiques qui ont été développés depuis maintenant 4-5 ans par la délégation générale, en particulier par mon prédécesseur à cette fonction, Thierry Lagneau, et le délégué général adjoint de l'époque, Pascal Seurat, donc qui ont structuré autour de trois grands dispositifs, l'évolution et la professionnalisation des alliances dans le domaine de l'enseignement du français vers les adultes, dans le domaine, donc c'est l'objet de FRAMES, dans le domaine de l'enseignement du français en direction des enfants, c'est le programme Smart Step, et dans le domaine, je dirais, de l'accès documentaire, tant pour les professeurs que les étudiants, et c'est l'objet de la base de données Merlin, donc qui a été conçue, élaborée, alors pas uniquement par la délégation générale, mais par tout un travail mené par l'Alliance française de New York et l'Alliance française de Chicago. En réalité, ces trois dispositifs n'ont pas pour objectif d'homogénéiser le réseau en matière d'enseignement, parce que ce qui fait l'intérêt de l'enseignement du français dans une alliance française, ce sont aussi les personnalités qu'on y rencontre, les professeurs qu'on y rencontre. Il y a souvent des personnes et des professeurs qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui ont toujours la même générosité pour enseigner le français. Mais c'était d'offrir un cadre qui permette à chaque alliance de se situer dans la manière qu'elles ont de traiter les étudiants, la manière de les accueillir, la manière de les suivre, de les évaluer, la manière de leur proposer une progression dans leur apprentissage. En réalité, ces trois dispositifs, l'idée était d'introduire dans l'enseignement et dans l'accès aux sources documentaires, d'introduire une démarche qualité, qui est très très importante pour la Fondation.
Ouais, c'est un mot-clé de la Fondation.
Et c'est un mot-clé de la Fondation, cette démarche qualité qui est de pointer dans les activités éducatives, dans les activités pédagogiques, dans les activités culturelles, dans les activités de mise à disposition de documents, l'activité des médiathèques, des centres de ressources documentaires, de pointer, je dirais, les points clés qui font que nous avons un service qui est de qualité.
Aussi bien donc dans l'enseignement proprement dit, c'est-à-dire la grammaire, etc., voilà, les conversations,
parce que tout
la médiathèque.
Tout, dans une alliance, le moindre geste vis-à-vis des personnes qui viennent pour apprendre le français est un geste important. Et je veux dire, démarrer un apprentissage en français, c'est une langue difficile à apprendre. Démarrer un apprentissage ne se fait pas simplement en classe de langue, mais se fait dans tous les moments de la vie de l'Alliance, qui est comment on accueille un étudiant, comment on le renseigne.
L'attention qu'on lui prête.
Ouais. L'attention qu'on lui prête. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental.
Et c'est technique. Et c'est en ça que justement l'Alliance française est tellement appréciée par rapport à des cours de langue
où chacun
est considéré comme un client.
Voilà, en proposant ces dispositifs qui sont des dispositifs cadres qui permettent à chaque alliance de se situer par rapport à cette démarche qualité. Ces trois dispositifs sont très très importants et au fur et à mesure des années, les directions des alliances, les conseils d'administration des alliances prennent acte de l'importance de cette structuration de l'activité qui repose, oui, sur une démarche qualité qui est de satisfaire, d'une part, mais qui est aussi d'attirer, d'autre part, de nouvelles curiosités, de nouvelles personnes.
Pratiquement, comment on s'y prend pour attirer de nouveaux curieux aux alliances françaises, ceux qui n'ont jamais touché au français? Comment on s'y prend pratiquement?
À mon sens, ce sont deux points qui vont de pair. C'est la convivialité et l'amitié, c'est l'échange. Je dirais l'échange confraternel qui existe entre les personnes, et c'est le degré de professionnalisation du dispositif d'enseignement que vous
proposez.
Oui, mais
pour les attirer, c'est-à-dire pour leur faire savoir que cette alliance existe et que
tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Bah, c'est en grande partie l'objectif des activités culturelles et artistiques que l'on
cherche. Les semaines du cinéma français, par exemple.
Voilà, c'est un festival de cinéma, ce sont des expositions de photographie, de peinture. C'est aussi en grande partie l'échange avec les intellectuels et les artistes locaux. Par exemple, moi, j'ai eu une expérience en Inde, puisque j'ai été aussi délégué général en Inde. Alors là où il y a beaucoup moins d'alliances, il y a 16 ou 17 alliances, mais qui sont des alliances importantes, où on s'est rendu compte que bon nombre d'artistes peintres indiens, qui sont maintenant de grands artistes peintres, ont, à un moment donné, débuté leur carrière par une exposition organisée dans une alliance.
Ah oui, c'est très intéressant.
Et donc, ce milieu artistique indien connaît très bien l'Alliance française.
L'Alliance française, découvreur de grands talents.
Oui, Oui, qui a permis à un certain nombre de jeunes de pouvoir s'exprimer une première fois, voire une deuxième fois, voire une troisième fois, pour des peintres maintenant qui sont reconnus. Et à l'époque, m'appuyant sur cette connaissance du milieu artistique et de cette relation qui existait entre l'Alliance française et les artistes, nous avons pu monter une exposition de 100 artistes indiens qui avaient exposé, c'était une opération de fundraising, donc 100 artistes indiens ont donné un tableau à l'Alliance française.
Pour une œuvre humanitaire ?
Pour
l'Alliance.
Pour l'Alliance. Donc ces tableaux ont été vendus aux enchères, mais 100 artistes, je dirais, tout à fait enthousiastes et reconnaissants de ce que l'Alliance française, à un moment donné dans leur vie, avait fait pour eux.
Ah oui, c'est formidable. Et donc, un peu dans ce même esprit, ça fonctionne aux États-Unis.
Et aux États-Unis, oui, souvent les alliances sont des endroits où les jeunes générations locales peuvent s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'une alliance française a tout intérêt à ce que les talents, les futures élites, soient francophones. C'est tout notre intérêt. Donc, accueillir un artiste peintre qui peut-être ne parle pas français tout de suite, mais qui a une expression artistique à laquelle on croit, qui va pouvoir exposer à l'Alliance française, l'artiste s'en souviendra un jour.
Donc vous vous réunissez par exemple entre plusieurs alliances à la délégation. Enfin, vous faites d'ailleurs régulièrement des réunions de tous les directeurs des 114 alliances.
Nous tenons notre prochaine réunion là, les 17 et 18 février. Elle se tient à Miami.
C'est annuel, donc.
C'est annuel. Mais bon, ce sont des échanges quotidiens.
Par mail, bien sûr, par téléphone.
Non,
mais par exemple, pour sélectionner des artistes, ou comme vous avez d'ailleurs choisi dans la campagne dont nous a parlé Mimi Grégory, One Book, One Federation, à la Fédération, vous avez donc sélectionné le roman de Catherine Vell, qui est venue à notre antenne, à Canal Academy, bien sûr. Donc, vous organisez des concours ou des expositions ?
Oui, c'est un choix qui est fait entre les alliances. Il y a comme une sorte de, non pas de jury, mais un certain nombre de personnes qui discutent les choix que l'on peut faire sur tel auteur, tel roman, pour pouvoir figurer durant l'année dans le programme d'un certain nombre d'écoles de langue. Catherine Vell a accepté maintenant de revenir aux États-Unis l'année prochaine, alors là pour une tournée de conférences. Donc on est en train de voir avec elle quels sont les thèmes sur lesquels elle va pouvoir intervenir. Voilà, c'est un travail quotidien de mise en relation, y compris localement, entre des personnalités francophones, francophiles, qui ne se sont pas rencontrées. Voilà, c'est ça le travail d'une alliance, hein. C'est l'échange, c'est la mise en relation, c'est la rencontre. C'est le débat d'idées, c'est cette profusion, je dirais, intellectuelle, culturelle qui est le plus intéressant.
Et c'est ça qui fait que la langue française aussi, enfin l'esprit, mais la langue française, paraît-il, est en augmentation. Enfin,
persiste à durer.
Persiste à durer, voilà. Est-ce que nous pouvons profiter de votre visite dans notre studio pour avoir une petite idée de votre parcours, Jean-François Chénin, entre le voyageur, l'écrivain et le philosophe ? Vous êtes né en Lorraine ?
Je suis né en Lorraine. Je suis né en Lorraine. Je le dis parce que c'est un point important de ma vie. Je suis l'arrière-petit-fils du 3e ou 4e prix Goncourt. En 1907, le prix Goncourt 1907 était autre que Émile Moselli, qui était un ami de Peggy et qui a obtenu le prix Goncourt pour l'ensemble de son œuvre et en particulier pour le Roué d'Ivoire. Et c'est vrai que j'ai baigné une grande partie de mon enfance dans cette littérature régionaliste. Émile Moselli écrivait très très bien, il était professeur de français et de latin grec. J'aime le beau français, c'est vrai. Bon, c'est pas tout à fait dévalorisant ce que je veux dire, mais vous vous souvenez de, ça existe toujours, de ces petits précis de grammaire et conjugaison qu'on appelait le bled.
Moi, en tant qu'autrichienne, c'était un petit livre étroit,
soit couverture bleue, soit couverture verte, qui existait et qui existe encore à l'école primaire. Et tous les exercices qui étaient donnés étaient extraits de citations d'auteurs. À une époque, je pense que c'était dans les années 60-70, l'auteur le plus cité dans le bled était Émile Moselli.
Mais bravo !
Moi, je n'y suis pour rien, mais ça reste pour moi une référence, une référence à la fois familiale, mais une référence importante dans ma vie.
Donc, vous êtes grand voyageur, comme je disais aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Inde, vous étiez aussi délégué général, vous étiez en Israël.
J'étais en poste en Israël, où j'étais à l'Institut français, j'étais attaché linguistique.
Où ça, à Tel Aviv ?
À Tel Aviv, oui, à l'Institut français.
Combien d'années ?
Pendant 4 ans. pendant 4 ans. Et puis, j'ai été 4 ans en Inde comme délégué général.
En général, c'est une période de 4 ans ?
Oui, c'est toujours 4 ans. Délégué... 4 ans, 5 ouais. ans, mais là, c'est 4 ans.
Quel autre pays vous avez visité ?
Visité.
Où vous avez travaillé ?
J'ai vécu, je n'ai pas travaillé parce que, étant enfant, j'avais la chance d'avoir un père qui travaillait dans les travaux publics, dans les grands chantiers. Donc, j'ai eu la chance de vivre en Turquie, de vivre en Iran, de vivre en Grèce. Je lui dois ce goût du...
Un vrai globe-trotteur.
Ce goût du voyage.
Oui, goût du voyage et en même temps... Vous êtes philosophe aussi, m'a-t-on dit ?
J'ai fait des études de philosophie, oui. J'ai poursuivi par des études d'économie de l'éducation. J'ai été instituteur, j'ai été conseiller d'orientation, j'ai été chercheur en éducation. J'ai fait partie dans les années... ça, c'est une anecdote. Voyons, c'était en 86... C'était le ministère Roudy, si j'ai bonne mémoire, qui était la première ministre aux droits des femmes et qui avait mis en place dans chaque académie des chargés de mission à l'orientation des filles. Parce qu'à l'époque, déjà, on se plaignait que les filles s'orientaient trop vers les métiers tertiaires, n'allaient pas assez vers les métiers de l'industrie, de la technologie et des sciences. Et donc, j'ai fait partie des 26 premiers délégués à l'orientation des filles. Il y avait 25 femmes et un homme, c'était moi.
Donc vous êtes ami des femmes aussi.
Ah, très grand ami des femmes, oui.
Et vous avez écrit « Grandeur, nature, des sentiments ».
J'ai écrit plusieurs livres, oui, ça c'est une activité...
C'est le dernier ?
Le dernier vient juste de sortir et ça s'appelle « Requiem ».
De quoi s'agit-il ?
C'est une réflexion sur le sentiment et le ressentiment, si je peux résumer ainsi.
Vaste
voilà, le sentiment
réflexion.
Et le ressentiment.
Ça nous laisse un peu en silence, mais je crois que vous aimez le silence aussi.
J'adore.
Et les déserts ? Où avez-vous trouvé les plus beaux déserts ?
Je crois que c'est en Israël. Alors, ce n'est pas tout à fait un désert. Parce
les
que
déserts de Judée ?
Non, dès qu'il pleut, ça reverdit. C'est le désert du Negev. Donc, au sud d'Israël, c'est une très belle région où il y a encore de très belles ruines romaines, mais bon, qui sont plus ou moins entretenues, plus ou moins remontées. C'est quand même le pays où il y a encore des bédouins, qui sont alors très, très accueillants.
Mais on les rencontre sur
on
la
les
rue
on les
enfin,
rencontre
sur la rue. Quand on roule voilà. vers le désert de Judée,
sans,
on voit
sans,
des tentes de bédouins.
Sans aucun problème. Ouais. Je crois que c'est le Negev qui m'a beaucoup attiré.
Écoutez, nous avons vraiment fait un peu le tour du monde. Et je vous dis un très, très grand merci, Jean-François Chénin, de nous avoir rendu visite et de nous avoir ouvert donc, tout un monde transatlantique et transdisciplinaire.
Je vous remercie beaucoup de votre accueil, de vos questions et d'avoir donné l'occasion, encore une fois, à l'Alliance française de dire ce qu'elle fait dans le monde.
Mais c'est toujours avec un énorme plaisir,
c'est
comme
très
vous
gentil.
Avez dû sentir.
Merci.
Merci beaucoup.